Au service de la terre et des hommes. Antoine Campredon, délégué diocésain pour la diaconie et l'écologie, sur Radio Grand Ciel. À l'heure où nous enregistrons cette émission, la COP27, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, bat son plein en Égypte. Cependant, face à l'urgence, les véritables réponses tardent à venir. Or, au même moment, le Secours catholique sort son enquête annuelle sur la pauvreté, ou plutôt, devrait-on dire, la montée de l'extrême pauvreté. Alors, en quoi ces deux réalités sont-elles profondément liées? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Antoine Campredon, délégué diocésain à l'écologie et à la diaconie. Antoine, bonjour.
Bonjour Simon.
Antoine, avec son livre Laudato Si, sorti en 2015, le pape François défend le concept d'écologie intégrale faisant un lien entre la dignité humaine et l'écologie. C'est la base de Laudato Si.
C'est la base de Laudato Si et c'est la grande intuition du pape François. Au sens que le cri des pauvres est intimement lié au cri de la terre. Ce que le pape François constate dans son introduction, c'est que beaucoup de nos systèmes économiques sont basés sur le capitalisme, le libéralisme, et donc font fi, enfin, visent à une rentabilité au prix d'un travail sur la nature qui ne considère pas la nature, qui la gâche, qui la gaspille, qui la démolit, comme la déforestation, on entend bien parler, mais la construction de supermarchés, la construction d'autoroutes, la construction du grand oléoduc dans le sud de l'Afrique, et qu'en même temps, cette diminution de la biodiversité, cette continuation d'émissions de gaz à effet de serre qui encourage, qui développe le dérèglement climatique par le réchauffement de l'atmosphère, fait que les manifestations climatiques de montée des eaux, par exemple, des tornades, des raz-de-marée, etc., qui sont assez catastrophiques dans d'autres parties de la planète que chez nous, font que beaucoup de populations en souffrent et sont elles-mêmes conduites à plus de pauvreté.
Je suis tout à fait d'accord que le progrès et la modernité aient malheureusement abîmé notre planète, mais en ce qui concerne la dignité humaine, c'est on peut se poser en tout cas cette question. En quoi les problèmes de réchauffement climatique, conséquences des rejets de gaz donc à effet de serre dans l'atmosphère, sont-ils liés à cette dignité humaine? Car si tout le monde, certes, ne bénéficie pas du confort, du progrès, on a quand même le sentiment en Occident de vivre mieux qu'il y a 100 ans.
Alors on vit beaucoup mieux qu'il y a 100 ans. Mais à quel prix? C'est-à-dire que nous, notre prix... On a par exemple délocalisé toutes nos usines, ou une grande partie de nos usines, en Chine, en Inde, dans les pays... On utilise d'immenses plantations de café, de thé, de cacao et autres, en Afrique, en Amérique du Sud. Et ça, c'est pas... la condition des personnes qui vivent là où nous exploitons les ressources de matières premières, où nous transformons ces matières premières... Elles ne sont pas nécessairement faites dans la dignité.
Oui, mais que ce soit en Chine ou en Inde ou encore au Brésil, enfin bref, dans ces grands pays émergents, eux aussi commencent à profiter de ce progrès. Est-ce que l'homme, il a quand même transformé la nature pour le bien de l'homme, à la base, nourrir les populations, les soigner, donc leur rendre la vie plus confortable quelque part?
Pour une partie des populations, oui. Regardez, alors je vais parler de deux choses. Un, c'est que la question climatique est quand même très importante parce que ce que tout le monde, enfin tous les scientifiques aujourd'hui disent, ce que on constate quand même, c'est qu'on arrive à un point de basculement. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où la Terre va être saturée de nos pollutions de tout type et que elle va se dégrader plus. Autrement dit, on pourra de moins en moins récupérer ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est très important de s'en rendre compte. Que deuxièmement, le pape insiste beaucoup sur la culture du déchet. C'est-à-dire que, nous on en profite, enfin une partie de la population française ou européenne en profite. Vous parliez tout à l'heure du rapport du Secours catholique, qui date de hier ou de ce matin.
De ce matin, oui.
Dit qu'il y a de plus en plus de personnes exclues, pauvres et très pauvres et extrêmement pauvres. Donc toutes ces personnes-là, elles ne font pas partie du système, elles ne bénéficient pas d'un meilleur être, d'un bien-être supérieur auquel vous ou moi pouvons bénéficier aujourd'hui.
Mais pourtant, toutes ces personnes-là, que ce soit en France, parmi ceux qui sont dans la pauvreté, ou que ce soit dans les pays émergents, tout le monde, ou presque, appelle de ses voeux ces transformations vers plus de confort, plus de modernité, plus de technologie. On a ce sentiment-là, en tout cas, et qui est quelque part légitime.
On a ce sentiment-là. Alors, je vais paraître un petit peu iconoclaste, peut-être. Mais ce sentiment-là, il est vraiment induit par du marketing, on va dire. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, a son portable, y compris dans les pays en voie de développement. Les gens les plus pauvres ont un portable. Je ne sais pas combien ils payent, mais en tout cas, ce portable, ça fait partie de la condition de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas venue d'un changement de paradigme, d'aller vers plus, plutôt que d'aller vers plus, aller vers un mieux, aller vers un peut-être moins, pour vivre plus heureux, des relations moins lointaines les uns des autres, mais plus proches, que ce soit en famille, avec nos voisins, nos amis, et notre environnement le plus proche, quoi.
Oui. Alors là, vous mettez en cause le marketing et j'en suis profondément convaincu, mais là, on part de loin. Alors, si on est obligé de faire un contre-marketing pour contrecarrer les publicités Nike et Apple, on a du pain sur la planche.
Oui, on a beaucoup de pain sur la planche. Je pense, en fait, personnellement, je pense qu'on est très conditionné par ce que nous voyons à la télévision, ce que nous entendons, ce que nos propres compétitions, c'est-à-dire moi j'ai des baskets plus belles que les tiennes, j'ai un smartphone plus beau que le tien, mon ordinateur va plus vite, il va plus vite que celui du chinois ou de l'indien qui est à l'autre bout du monde. Hein, mais on est sans arrêt conditionné par ça, par du plus, 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 quoi.
Oui, mais dans ce plus, il y a aussi du mieux. Je pense, par exemple, à la nourriture, à l'agriculture, qui permet quand même de nourrir énormément de gens sur cette planète. Et on se dit, si on revenait à des petites parcelles agricoles, comme certains écologistes le souhaitent, comment ferait-on pour nourrir la population? Et puis, bien sûr, le confort ménager que nous avons chacun chez nous, l'eau courante, l'électricité, etc. Où mettre la frontière dans ce cas-là entre le surplus et puis le nécessaire, étant donné que le téléphone portable, on a l'impression que c'est devenu une nécessité, et même pour les plus pauvres, comme vous le dites.
Et bien sûr, et moi je suis le premier à l'utiliser abondamment. Je crois que c'est la question, la réponse n'est pas individuelle. Je pense que la réponse c'est non pas non plus collective, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, elle est dans réfléchir à plusieurs, à la façon dont on peut changer pour vivre de manière plus sobre. Il y a des expériences aujourd'hui d'immeubles qui sont habités par des ménages qui ont mis en commun des machines à laver, qui ont mis en commun des sèches-linges, pourquoi pas. Mais ce n'est pas 15 sèches-linges dans un immeuble, c'est 3. Voyez, donc je pense qu'on peut réfléchir à ces façons d'aménager les choses, de consommer moins et de consommer mieux. Il n'est pas non plus question d'avoir des petites parcelles agricoles. En France, bon, la question agricole, elle est surtout ici dans la Beauce.
Hein. Complexe, hein, oui.
Bon, on ne va pas remettre ça en cause. Simplement, on peut réfléchir. Je pense qu'à la FNSEA, je pense que chez France Paysanne, on réfléchit à cette façon de consommer moins d'intrants, consommer moins d'engrais, moins de pesticides, d'abord parce que ça coûte très cher, et qu'ensuite ils sont motivés par la préservation de la nature, préservation de la biodiversité. Donc ça n'empêche pas de réfléchir et de se dire, à un terme immédiat ou à plus ou moins long terme, on peut avancer vers des améliorations qui vont dans un respect plus grand de la nature, de la biodiversité, pour une part, et aussi de manière sociale. Aujourd'hui, comment analyse-t-on cette extrême pauvreté? Pourquoi? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'on n'a pas des systèmes sociaux qui sont défaillants? Ils le sont. Il y en a certainement qui sont défaillants puisqu'ils laissent des gens de côté. Hein. Et donc, comment... Mais j'ai pas la réponse aujourd'hui.
Bien sûr.
J'ai pas la réponse. Par contre, on a le rôle de dire « Oui, il y a des systèmes défaillants. Qui veut y réfléchir? Avec qui on y réfléchit? Et qu'est-ce qu'on va proposer pour améliorer les choses de manière simple ou de manière plus complexe ?»
Et d'ailleurs, dans le rapport du Secours catholique, j'entendais ce matin une grande majorité, c'était plus de 60% des personnes dans l'extrême pauvreté sont des immigrés. Et là, on se rend bien compte, pour le coup, à la fois de certaines conséquences, peut-être, du réchauffement climatique, avec certaines sécheresses qui poussent des populations, effectivement, à migrer vers l'Occident.
C'est un vrai sujet de société en France, en Europe, dans les pays occidentaux. Les prévisions démographiques envisagent un déplacement de 800 millions de personnes à 1 milliard de personnes en 2050 pour des raisons climatiques. Ça veut dire que cette question des migrations, elle ne peut pas être traitée par-dessus la jambe. Il faut vraiment la prendre en considération, non pas de manière politique carde, on va dire ça comme ça aujourd'hui en France, mais de manière, dans le fond, et se dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et comment est-ce qu'on peut s'y préparer, et comment est-ce qu'on peut commencer à agir. Est-ce que c'est de l'accueil, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est des accords bilatéraux avec les pays desquels viennent les personnes migrantes?
Oui, mais je ne vois pas en quoi ça va changer le réchauffement climatique, par exemple, de recevoir ces gens-là chez nous.
Mais le réchauffement climatique, il va pas changer. On peut le limiter.
Enfin, on voit pas comment ça pourrait le limiter non plus.
Alors non, bien sûr.
C'est le lien entre ces deux aspects que je cherche à saisir.
En fait, le réchauffement climatique va avoir lieu. Il a lieu et il va avoir des conséquences sur les migrations. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut chercher à s'adapter aussi à ce réchauffement climatique. Pensons à ces villages qui sont, par exemple, au Sénégal, qui sont au bord de la mer, qui sont aujourd'hui envahis par la mer. Hein, des îles qui sont envahies par la mer. Bon, ben c'est peut-être pas des villages sur le sol qu'il faut construire, mais des villages sur pilotis. Est-ce que c'est pas un déplacement du village qu'il faut voir? Comment est-ce qu'on va le financer? Comment est-ce qu'on va former les gens? Vous voyez? Donc, ce sont des actions comme ça aujourd'hui qu'il faut prévoir. Au Bangladesh, ça va être la même chose. Le Bangladesh est pratiquement à hauteur de l'eau. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont devoir refluer vers l'Inde. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus?
Alors, ce que vous me dites...
Donc, j'ai bien conscience que je n'apporte pas de réponse, ouais. parce que je n'en ai pas. Ma réponse, c'est considérons tout cela comme une réalité aussi à venir, et mobilisons-nous à plusieurs pour traiter le sujet d'abord chez nous, et ensuite essayer de voir comment ça peut se déployer à l'extérieur.
Un peu en manière d'exemple, c'est ce que vous voulez dire, c'est à l'Occident de montrer l'exemple de ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation, ou en tout cas limiter les effets de la catastrophe.
Alors, je pense que l'Occident va être très fortement impacté par les questions migratoires, mais ce n'est pas à lui de montrer l'exemple. Je pense que ceux qui doivent montrer l'exemple, ce sont les pays considérés, ce sont les pays d'où viennent les migrants. Je pense que c'est d'abord à eux de prévoir les choses, peut-être avec notre aide. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces pays ont les compétences en ingénieurs, en sociologues, en anthropologues pour faire ce qu'il faut, quoi. Maintenant, les fonds existent aussi. Je pense que il y a aussi la question de la corruption qui dans ces pays sur laquelle il ne faut pas tracer un trait, il ne faut pas la dénier, hein, mais il faut la considérer. La lutte contre la corruption existe. Et voilà, tout ça, c'est des combats très importants auxquels on est confronté.
Alors, dans son livre, Laudato aussi, le pape aborde les aspects politiques, évidemment. Alors, c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder comment fonctionne un grand groupe industriel, une multinationale. Et il y avait un documentaire très instructif sur Total en ce moment sur Arte. Non pas pour bêtement les diaboliser et puis dire que c'est mal ce qu'ils font, mais pour comprendre leur pouvoir immense, leur pouvoir financier, leur pouvoir géopolitique.
Mais c'est clair que Total et beaucoup d'autres multinationales appuient sur tous les leviers possibles pour pouvoir se développer. Et donc assurer la fourniture de leurs matières premières, assurer la transformation, assurer un bon prix pour pouvoir vendre partout où ils peuvent vendre. Et c'est aujourd'hui ça la grande problématique. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique-là de grands groupes financiers, de grands fonds d'investissement aussi, qui cherchent à faire du bénéfice, cherchent la rentabilité. Donc, on est dans cet engrenage-là.
Il y a une remise en cause du pouvoir des États face à ces multinationales.
Alors, quand les États ne sont pas d'accord avec les multinationales, c'est clair qu'elles vont agir pour pouvoir se développer et essayer de trouver des pouvoirs qui leur soient favorables. La remise en cause des États par rapport à l'implantation de ces multinationales, elle a aussi une grande légitimité. Alors après, est-ce qu'elle peut pas? Est-ce qu'ils peuvent pas? C'est la question.
Ouais, il y a plein de situations où cela semble-t-il très compliqué à cause de toute une imbrication de lois et du système qui semble être conçu quand même en faveur des multinationales.
Mais oui.
Alors ces multinationales, évidemment, font aussi preuve de cynisme, c'est-à-dire que là où elles vont installer, par exemple, des oléoducs, là où elles vont installer des forages, les populations, elles, pour le coup, sont rarement prises en compte, ou alors vraiment par-dessus la jambe, quoi, pour parler vulgairement.
Alors, si on parle de Total, en l'occurrence, je dirais un petit mot après sur les multinationales, quand même, parce qu'elles apportent aussi des bienfaits.
Oui, il ne faut pas les diaboliser non plus, évidemment.
Il ne faut pas les oublier. Total a fait plus de 1000 scénarios d'implantation de son oléoduc dans le sud de l'Afrique. Mais en fait, ce sont des scénarios à l'occidental. C'est-à-dire, OK, je passe à travers votre village, donc je vous indemnise.
C'est ça.
D'accord ? Je passe à travers un parc national, donc je fais en sorte qu'il y ait plus d'éléphants, plus de... Mais ils ne tiennent pas en compte la culture, ils ne tiennent pas en compte le micro-climat, la microfaune, etc. Donc, c'est encore à l'occidental. On passe, on compense. En fait, c'est une idée de compensation. Mais ce n'est pas une idée de respect, véritablement, de la nature et des cultures locales.
Alors...
Je voudrais juste dire un petit mot quand même sur Total. Total et la BNP d'ailleurs qui financent beaucoup Total, j'ai écouté des interviews, et disent, et je pense à raison, c'est-à-dire que tant qu'on aura besoin d'essence dans les voitures, tant qu'on aura besoin de fuel pour se chauffer, tant qu'on aura besoin de kérosène pour voler, on aura besoin de Total. D'accord ? Donc c'est aussi le lot de toutes les grandes multinationales. C'est-à-dire tant qu'il y a des consommateurs...
Évidemment.
Il y a des grands groupes, parce que les grands groupes savent faire des économies d'échelle, et donc ils savent se fournir là où c'est pas cher, et nous faire des produits qui soient à hauteur de nos porte-monnaies. Il faut pas oublier ça.
Alors, juste deux choses. On peut plaindre ces populations africaines, mais ça ne se passe pas qu'en Afrique. Au Texas, même, au cœur des États-Unis, il y a des forages qui sont faits à 100 mètres des crèches, alors que des forages à base de fragmentation de schiste, et donc on sait très bien qu'il y a le gaz qui s'échappe.
Les émanations, bien sûr. Oui.
Elles émanent de toute façon sur plus d'un kilomètre autour, et oui, là on est à 100 mètres d'une crèche, et on sait... les statistiques disent qu'il y a effectivement le taux d'asthme dans cette région augmente de manière incroyable par rapport à la norme nationale, par exemple.
C'est là qu'on voit que tout est lié. C'est-à-dire que la grande économie s'installe sans faire attention ni à la nature, ni aux gens qui sont à côté. Et ceux qui en pâtissent, c'est la nature. Et ce sont les gens qui sont à côté qui n'ont pas droit à la parole. Ces gens qui n'ont pas droit à la parole, ce sont les pauvres dont parle le pape François. Et c'est là où l'imbrication se fait. Et c'est là où le pape François dit stop, stop.
Oui, mais il peut dire stop, mais quand on voit comment fonctionnent ces multinationales, encore une fois, eh ben on se sent totalement impuissant, puisque même les États eux-mêmes ont du mal à agir. Toujours dans ce documentaire sur Total, on apprend que ça fait depuis les années 70 que des rapports internes chez Total ont exactement décrit les effets des gaz à effet de serre et ont prédit un réchauffement climatique en 1971.
Mais oui, ça fait depuis 1971. Et moi, j'ai 66 ans. En 70, j'avais 18 ans, ou un petit peu moins. Enfin, dans les années 80, on en parlait déjà, et de manière critique. Donc, en fait, ça met 40 ans à atteindre la conscience collective, mais on y est, et on le voit. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, une sécheresse, comme on a vu cet été en France, des incendies, comme on a vu cet été en France, ça alerte notre conscience, alors qu'avant, on avait peut-être moins conscience de ça, parce que ça se passe loin. Vous voyez ? Comment lutter contre les multinationales ? Comment lutter contre tout cela ? Mais je pense que ce sont des exemples de gens qui consomment moins, ce sont des exemples de gens qui réfléchissent, qui peuvent nous animer sur nos modes de vie à nous. Comment adopter un mode de vie qui soit moins consommateur, adopter un mode de vie qui soit plus sobre. Et c'est clair que les entreprises, qu'elles soient industrielles ou pas, elles s'adaptent à leurs clients. Si on consomme moins, si on consomme autrement, elles vont s'adapter à leurs clients. Regardez la grande distribution et tous les produits biologiques, par exemple. Produits biologiques, il y a 15 ans, ça faisait C'était rien du tout, c'était un tout petit rayon, c'était 3% des ventes. Aujourd'hui, ça représente facilement 15% des ventes. Et le paysage agricole français et industriel s'y adapte. Donc, s'il y a une pression des consommateurs, il y a une pression sur l'industriel et il y a une pression sur son mode de fonctionnement.
Alors malheureusement, changer l'état d'esprit des consommateurs et des citoyens n'est pas forcément plus facile que de changer l'orientation d'une multinationale. Je pense par exemple aux lois sur l'artificialisation des sols qui ont été passées en France. Et on voit qu'elles ont extraordinairement du mal à s'appliquer quand on arrive dans une commune où le maire en premier dit vous plaisantez ou moi j'avais prévu cette route-là ou voilà, non, je ne vais pas...
Bien sûr, et puis c'est l'argent qui rentre dans la commune aussi. Donc, oui, ça a du mal à ça. En fait, nous, en tant que citoyens, aujourd'hui, nous avons un rôle. Nous avons un rôle. On peut parler, on parlera de l'artificialisation après, mais par rapport aux entreprises, il y a un certain nombre de start-up aujourd'hui qui ont dit start-up à impact. Donc, qui changent le mode de vision de la production. Donc, elles rentrent aussi dans la concurrence. Leurs produits rentrent dans la concurrence. Donc, le fait de choisir ces produits-là, le fait de choisir des banques dites éthiques, des assurances dites éthiques, d'arrêter de mettre ses investissements, ses économies dans l'énergie fossile, par exemple. Tout ça, ce sont des signes très forts pour les entreprises qui se disent tiens, là, les citoyens réagissent. Et nous avons ce rôle-là, véritablement, aujourd'hui, de prendre des responsabilités qui soit significative, et quand il y a plusieurs millions de personnes qui prennent ce type de décision, ça a un impact très fort sur la vie et la réflexion et la stratégie des entreprises.
Oui, évidemment, je dresse un tableau qui peut paraître bien noir, mais face à ce constat, les gens ne restent pas non plus les bras croisés. Et toujours dans la Haute-Haute aussi, on observe les réactions qui peuvent avoir lieu, par exemple en France. Les différentes réactions de nos concitoyens qui sont, elles aussi, multiples.
Alors, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a véritablement un grand mouvement Laudato Si en France. Je peux vous parler de la conférence des évêques de France, qui a mis en place un responsable pour Laudato Si. Et dans chaque diocèse, vous avez un responsable pour Laudato Si aussi. Donc, qui essaye de mobiliser, sensibiliser, conscientiser les fidèles à ce que fait ce que prône la Laudato Si, cette sobriété heureuse finalement. Cette attention aux personnes pauvres, cette attention à la nature, et puis son rôle citoyen. On va dire ça, voilà, comme ça, ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, comme ça. Et donc, le mouvement Laudato Si est plus mondial que français. Vous avez aussi un mouvement comme Église Verte, donc, qui est connu, qui est appliqué dans deux ou trois paroisses de notre diocèse, où, à partir du moment où une paroisse se met en marche vers commence à avoir une démarche de type écologique, mais écologie intégrale, elle est déjà Église Verte. Et puis elle progresse petit à petit au cours des années pour arriver à changer son mode de vie, son mode d'être.
Oui. Alors, on arrive aussi là à une question évidemment essentielle dans la Laudato Si. N'oublions pas qu'elle a été écrite par le pape François. Et même si dans son introduction, il englobe l'ensemble de l'humanité et non plus simplement les gens de bonne volonté comme l'ont fait ses prédécesseurs, tout le monde est concerné évidemment. Tout le monde est concerné par l'écologie. Alors en quoi l'Église a-t-elle quelque chose de plus ou de différent à dire sur cette question d'écologie? En quoi est-elle plus légitime? En quoi, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus?
Je crois que l'Église, elle a ce rôle universel, en fait. Donc quand un pape s'exprime, après avoir pris conseil auprès des scientifiques, théologiens, économistes, il a une vision quand même assez globale du monde. Et quand un pape s'exprime de manière aussi tranchante que François par rapport au système économique, par rapport au système politique, par rapport au réchauffement climatique, en disant « ça suffit, basta », comme on dit en espagnol, « basta ». Hein, il est espagnol, donc ça a du poids. Et ça a du poids parce que ça nous implique, nous aussi, les 1,2 milliard de catholiques, quand même, ou de chrétiens dans le monde, au moins ça, de se dire, tiens, un pape prend vraiment position aujourd'hui sur cette question du réchauffement climatique, de la culture des déchets, en particulier aussi les déchets des pauvres, des systèmes économiques et politiques, donc ça pose question.
Ça pose question, mais ça pose aussi question pour celui qui a un pas, qui regarde ça de côté un petit peu, qui ne connaît pas forcément l'Église. Mmh. Qu'est-ce que l'Église a à voir là-dedans? Alors, comment relier tout ça avec la Bible et l'Évangile, par exemple?
L'Église est aussi composée de citoyens, hein, donc on est, ça nous fait rentrer aussi dans ce mouvement-là et cette réflexion-là, tout comme les partis écologiques, d'accord, ou écologistes. Ce que la Bible nous dit, c'est en fait, il y a un changement. Disons que nous faisons partie de la terre, c'est-à-dire que on est la terre est notre maison commune. Et ça, c'est nouveau dans l'Église. Avant, c'était la terre est soumise à l'homme. Aujourd'hui, c'est nouveau de dire que nous faisons partie de cette maison et que la moindre petite fourmi, on est dans la même maison que l'homme et que nous avons le devoir de la protéger. Nous avons le devoir de protéger les pauvres. Nous avons le devoir de veiller à ce qu'il y ait une harmonie plus importante entre les uns et les autres, de façon à ce qu'on puisse se développer de manière intégrale, que tous aient le droit à manger, se couvrir, avoir un toit, aller à l'école, avoir un travail, à ce qu'il y ait moins d'avortements, à ce qu'il y ait moins d'euthanasie, parce que c'est la protection de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc ça aussi, c'est dans cette encyclique. Et la Bible nous dit, voilà, l'amour. Hein, l'amour, aimez-vous les uns les autres, ça fait aussi partie de cette écologie, c'est à la base, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Tout à fait. Antoine Comprenon, on arrive au terme de notre émission. J'aimerais, pour terminer, qu'on revienne sur ces journées mondiales des pauvres qui ont eu lieu le dimanche 13 novembre. Mm-hmm. Alors, on l'avait annoncé sur les ondes de Radio Grand Ciel, ça avait été annoncé dans les paroisses, évidemment, et puis par la lettre d'information diocésaine. Comment cela s'est-il passé ?
Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les paroisses.
Vous n'étiez pas dans toutes les paroisses.
J'étais pas dans toutes les paroisses. Par contre, j'étais à la cathédrale. Et la cathédrale, on était une quarantaine, dont une moitié de personnes en état de pauvreté. Pas mal de gens de la rue étaient amenés par la Société Saint-Vincent de Paul et quelques migrants amenés par la pastorale des migrants à Dreux. Et ça a été une journée... on s'est tous retrouvés à la messe. À la fin de la messe, les personnes à la rue ont témoigné. Je dirai quelques mots de ce qu'elles ont dit. Et puis ensuite, on s'est retrouvés pour le déjeuner. C'était sympa. Et puis un film à la fin, dont on parlera une prochaine fois. Donc ça a été, comment dire... Je vais vous dire 5 paroles qui ont été fortes parce que au micro. Les personnes à la rue disant « Je suis fatigué, fatigué. » Une autre qui dit « On ne nous regarde pas. » D'autres qui disent « On nous regarde comme de la merde. » Un autre qui dit « On ne nous considère pas. » Voilà. Et je pense que ces paroles sont à entendre. C'est ça, écouter la voix des pauvres. Elles sont à entendre. C'est-à-dire, quel que soit ce que ces personnes ont pu faire, n'ont pas pu faire, pourquoi elles se retrouvent à la rue, pourquoi ceci, ça n'est pas grave. L'important, c'est que c'est des frères, ce sont des sœurs qui souffrent, et qui souffrent de ce qu'ils disent. Ils disent pas « j'ai pas d'argent ». Ils disent pas « j'ai pas de toit ». Ils ont pas de toit. Ils vivent sous la tente en ce moment, dans un ou deux duvets, ils crèvent de froid. Quoi. Mais ils se plaignent pas de ça. Ce dont ils se plaignent, c'est du manque de considération, du manque d'attention, d'être humain à être humain, vous voyez. Donc moi, si je peux passer un appel, c'est dire, si vous êtes dans la rue, que vous croisez quelqu'un qui vous demande une pièce, eh bien, donnez-lui une pièce, peu importe ce qu'il en fera. Ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Mais surtout, ne faites pas que ça. Regardez-le, parlez-lui, prenez 2, 3 minutes, 10 minutes pour échanger avec lui. Ça n'engage à rien et lui, ça le transforme parce qu'il se sent considéré, se sent pris en attention, pris en considération, aimé. Et ça, ce qu'on a vu dimanche, c'est vraiment ça. C'est le nombre de gens qui nous ont dit merci de nous avoir écoutés. Voilà, c'était juste ça, une présence. Et puis moi, j'étais aussi content d'être écouté. Voilà, il y a un échange. Voilà, si vous êtes dans la rue, il n'y a pas tellement de SDF. À Chartres, il y en a 50. Donc, on va les croiser. S'il vous plaît, vous les auditeurs et auditrices, arrêtez-vous, prenez un petit moment, serrez la main, regardez-les, faites-leur un sourire et parlez-leur.
Antoine Comprenon, un grand merci et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Merci Simon, au mois prochain.